Bonjour. Une émission spéciale sur le festival de la BD dans le Pré, qui a eu lieu dernièrement à Fourques-sur-Garonne. La semaine dernière, nous en avons parlé. Aujourd'hui, un épisode 2. Aussi, nous entendrons les auteurs de BD, dont Patricia Liffon, de la région parisienne, à travers la bande dessinée La Rose Écarlate, l'histoire de Cap et d'Épée, et Alice Picard, dessinatrice de Dordogne, qui travaille avec Patricia Liffon. Ensuite, le prix d'annonciation des aventures de Marmande, qui organise des jeux de rôle au Quai 31, au cœur de Marmande, tous les 15 jours. Ensuite, Alban Suaret de Marmande, organisateur de ce festival avec Antoine Chevalier, à la librairie Libellule, et à l'origine, responsable de Vegas, centre de formation sur les métiers liés à l'image au cinéma. Maria Surducan de Roumanie, qui travaille avec sa sœur pour réaliser des bandes dessinées. Et puis Strong de Lognac, en Lot-et-Garonne, réalisant des romans d'aventure jeunesse avec des histoires d'animaux. Louis de Toulouse, originaire du Ghana, réalise des mangas inspirés de son enfance en Afrique. Et enfin, Serge Montfort de Bretagne réalise des BD jeunesse sur des histoires d'animaux. Côté jardin, l'histoire de l'animal du Japon. Alors, je suis au festival de la BD dans le Pré, à Fourques-sur-Garonne, et je suis avec Patricia, qui est artiste. Alors, artiste sur quoi, au juste ?
Alors, moi, je suis autrice, et donc j'ai créé la série La Rose Écarlate, qui est une BD de Cap et d'Épée, on va dire, jeunesse, chez Delcourt, et ça fait bientôt 20 ans que la série existe, donc voilà.
Alors, donc, cette BD qu'on a sous les yeux, puisqu'il y en a beaucoup qui se présentent là, donc c'est des jeux de Cap et d'Épée, donc ce sont des BD. Dès le départ, l'idée, c'était le Cap d'Épée, d'Épée.
Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est, on va dire que c'est un espèce de mixte. Parce que moi, je suis très influencée par le dessin animé japonais. Donc, moi, je suis vraiment. J'ai beaucoup regardé le Club Dorothée quand j'étais jeune. Donc, c'est vraiment, comment dire, à mi-chemin entre la BD franco-belge et le manga, mais en couleur. Et donc, au début, c'est du Cap d'Épée. Ça tire un petit peu sur la fantasy, le fantastique, voire même à un moment donné. Mais ce qui était important, c'était faire une BD d'aventure. Et surtout, moi, au moment où je l'ai créée, je voulais faire une BD pour les filles, parce que moi, je lis beaucoup de BD. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de BD pour les jeunes filles. Donc, je me suis dit, bah, j'ai remonté mes manches et je me suis dit, bah, vas-y, fais-la. Et donc, c'est comme ça qu'est née La Rose Écarlate.
Et alors, quoi comme formation pour faire ça au départ ?
Alors la BD, c'est, je pense qu'avant avant une formation, c'est beaucoup de passion. Je vous avoue, c'est la passion de raconter des histoires. Et le dessin arrive par la suite. Donc le dessin, après, il y a dans le dessin, il y a des formations, des écoles de dessin animé, des écoles d'illustration qui peuvent nous aider à nous former. Il y a aussi quelques écoles de BD qui ont ouvert depuis quelques années. Mais de toute façon, le plus important, c'est de faire des planches. Et donc c'est vraiment beaucoup. Moi, je vous avoue, j'avais mon travail. J'avais le travail de l'école que je devais fournir par rapport à toutes les écoles de dessins que j'ai faites, mais La Rose Écarlate, c'était un travail personnel que moi j'ai apporté après par la suite et qui m'a aidé la suite professionnelle de ma carrière. Donc voilà, c'est pour ça quand je disais il n'y a pas forcément de formation. Ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire, en fait, de tout ça.
Alors l'idée au départ, c'est quoi ? C'est on monte un scénario et après derrière on fait des planches ou quoi ?
Le mieux, c'est ça. Après, parfois on peut gribouiller des dessins qui vont nous apporter aussi des idées. Donc tout dépend, ça fait un aller-retour. Mais à un moment donné, de toute façon, moi personnellement, je suis quelqu'un qui écrit d'abord beaucoup avant. Et après, je m'attaque au dessin. Et c'est quelque chose de très... comment dire, ça se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que c'est quand même assez, c'est de la routine hein, de travail aussi. Hein. C'est de trouver une bonne routine de travail. On peut pas faire ça d'un seul coup. C'est quand même, faut être assez carré dans ce métier parce qu'il faut aller au bout. Et donc on peut pas aller n'importe comment. Hein. Donc moi, ce que je préconise, c'est écrire scénario, faire les crayonnés, ancrer, faire la couleur. Dans ce sens-là, c'est mieux. De toute façon, je trouve que c'est le seul sens que de partir comme ça en se disant j'aurais dessiné au petit fur et à mesure. Et là, c'est plus compliqué. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, chacun son truc, quoi.
Et donc, depuis 20 ans, faire toutes ces BD, est-ce que vous travaillez que sur une BD à la fois ou vous avez plusieurs idées?
Alors, moi, je travaille sur plusieurs séries. Donc ma première BD, c'était vraiment La Rose Écarlate. Donc avant, je faisais un petit peu de manga, mais pour moi, en noir et blanc. Et en fait, j'ai fait une autre série au cours de La Rose Écarlate. En même temps, j'ai fait Le Prince à croquer, qui est une comédie romantique, un conte de fées contemporain. Parce que j'avais besoin, moi, de dessiner autre chose aussi. Il y a des aspirations artistiques aussi. Et donc là, depuis 5-6 ans, je travaille avec Philippe Ogaki et Patrick Sobral. Donc on est tous les trois au scénario d'une série qui s'appelle Les Mythics, qui est pour la jeunesse, aventure, action-aventure pour la jeunesse, avec beaucoup de dessinateurs, dont Alice Picard, qui est à côté de moi aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est vraiment écrire les histoires les mieux possibles et puis pouvoir les éditer. Hein, c'est ça qui est le plus important pour nous. Ouais.
Très bien, merci. Alors, Alice Picard, je crois qu'elle est originaire de Dordogne. Et tu travailles avec ta collègue sur finalement des scénarios en ce moment, c'est ça?
Oui, donc moi je suis essentiellement dessinatrice, un peu coloriste quand il faut, mais là c'est pas en ce moment. Donc je travaille sur les Mythics. On est plusieurs dessinateurs, on doit être. Sur le premier cycle, on était 6 dessinateurs qui dessinions chacun un tome en parallèle. Et le tome sortait à peu près tous les 2 ou 3 mois. Du coup, ce qui fait que le lectorat n'a pas besoin d'attendre un an comme pour beaucoup de séries classiques où on doit attendre la suite parce que c'est un seul dessinateur, un seul scénariste. Et du coup là c'est vraiment un travail de groupe.
Et un travail à plusieurs mains, un travail collectif. Et le dessin, comment est venu le dessin?
Depuis toujours. Là je pourrais pas vous expliquer parce que je m'en souviens pas trop, j'ai toujours dessiné. Et voilà, je racontais mes propres histoires. Je dessinais surtout des animaux à l'époque.
Et tu as fait une formation de dessin?
Alors moi, j'ai fait une formation de dessin d'animation, la même école que Patricia, à quelques années de différence. Et donc Les Gobelins, Paris. Et puis après, j'ai fait un peu de dessin animé à l'époque au studio Disney de Montreuil, quand il y avait encore un studio d'animation là-bas. Donc
c'est compliqué de s'animer parce que
quand on est encore plus nombreux qu'un projet comme les Mythics.
C'est incroyable pour faire un dessin animé.
Alors chez Disney, le monde qu'il faut. Je crois. Alors je sais plus combien de personnes il y avait au sud de Montreuil, peut-être une petite centaine, mais en tout il y a, je dirais au moins plus de 500 personnes. Oui. Quand on voit la longueur des génériques de fin.
Voilà. Et donc, le dessin, ça a toujours été une passion?
Oui, plus ou moins, oui.
Et là, tu continues, donc cette fois, tu travailles avec ta collègue, vous travaillez à plusieurs pour faire finalement un album qui sort tous les 3 mois.
Voilà, 3-4 mois. Donc en ce moment, maintenant, on a 3 par an. Mon prochain, là, que je fais au dessin, va sortir au mois d'avril. Et puis, ensuite, là, c'est le tome 15, et là... Donc je suis sur le tome 17. Donc en fait c'est 2 ou 3 tomes. Je vais pas faire le 16 parce que le 16 quelqu'un d'autre le fait pour que ça sorte assez vite.
Donc ça c'est ce que tu fais là?
Ça oui, enfin là je suis sur les Mythics. J'ai aussi fait un peu d'auto-édition. J'ai fait un artbook en financement participatif il y a quelques années, qui a plutôt bien marché. Et puis, j'ai commencé à peu près en même temps que Patricia à la BD, Et j'ai fait aussi une autre série qui s'appelle Wina, qui est sortie début 2000. C'est une histoire complète de 8 tomes qui se passe dans un univers. Alors, c'est un peu moins jeunesse que Mythique, c'est plutôt une série pour adultes. Et donc, c'est de la fantasy. Et c'est une histoire en 8 tomes qui est faite il y a une dizaine d'années.
8 tomes, quand même.
Oui.
Alors, 8 tomes, c'est de la science-fiction, c'est quoi ?
De la fantasy. Un univers médiéval fantastique. Alors, c'est pas tout à fait science-fiction. C'est plutôt un mélange entre un peu post-apocalyptique et steampunk qui s'appelle Okeania. C'est plutôt une série jeunesse. C'est sorti chez Dargo Benelux en 5 tomes.
Très bien. Merci, Alice Picard.
Merci à vous.
Je suis au Festival de la BD dans le Pré à Fourques-sur-Garonne. Et je suis à côté d'un des membres d'une association. Association, un jeu de rôle, ça s'appelle Des Aventures. Alors c'est quoi ça ?
Alors Des Aventures, c'est une association qui propose du jeu de rôle sur le Marmandais. Toutes les 2 semaines au Quai 31.
Alors Quai 31, donc au cœur de Marmande. Et jeu de rôle, c'est quoi jeu de rôle ?
Alors le jeu de rôle, c'est un jeu de société qui en fait, contrairement à un jeu de plateau, le but étant pas de gagner ou de perdre, le but étant plutôt de créer une histoire, de créer un récit avec tous les joueurs autour de la table, tous ensemble pour
simplement. Alors c'est pas de l'improvisation ou...
Alors si c'est de l'improvisation, mais voilà, l'improvisation c'est souvent quelque chose qui fait peur, on a l'impression qu'il faut être acteur, alors que pas du tout. Il n'y a pas forcément de besoin d'être un professionnel de l'improvisation pour venir jouer. C'est vraiment à la portée de n'importe qui. Voilà, des enfants comme des adultes et des adolescents, tout le monde s'éclate avec le jeu de rôle.
Alors, c'est tous les 15 jours, c'est ça ?
Alors, nous, on est à Marmande, on organise des sessions de jeux de rôle toutes les 2 semaines à Marmande, au Quai 31. Et du coup, les sessions durent de 20h30 de 20h30 jusqu'à minuit, 1h du matin, ça dépend des parties.
Et épuisement, quoi.
Et voilà, c'est ça. c'est ça. Exactement.
Alors, vous donnez un thème au départ ou pas ?
Alors, ça arrive, on a des soirées qui sont thématiques, on a des... vous voyez, on prépare une soirée pour le 1er avril, donc même les membres ne sont pas au courant, donc je ne vais pas dévoiler là maintenant ce que c'est.
On ne va pas leur dire.
On ne va pas leur dire de suite, mais voilà, donc on a des soirées thématiques comme ça. Après, sinon, on annonce à l'avance, sur la page Facebook de l'association, on annonce les tables qui vont être jouées, et il y a 5 ou 6 tables qui sont proposées par soirée. Et du coup, les gens peuvent voir un petit peu à l'avance ce qui va être joué ce soir-là, un peu comme le menu d'un restaurant, et ils peuvent choisir en fait ce qu'ils veulent faire ou ne pas faire sur cette soirée-là.
Alors quand on dit jeu de rôle, c'est-à-dire que si je prends un exemple, si par rapport à une table, on est déguisé, comment ça marche ?
Alors on peut éventuellement être déguisé, mais c'est pas vraiment pas nécessaire. Tout se passe en fait dans la tête des joueurs, comme je disais tout à l'heure, on crée une histoire dans laquelle il y a des personnages, et en fait le jeu de rôle, c'est justement ça, c'est prendre la place, se mettre dans le rôle d'un personnage de cette histoire, qui va faire des actions, qui va faire des choix, et qui vont du coup amener à une évolution du récit dans telle ou telle direction. Voilà, sans pouvoir le prédire forcément à l'avance.
Donc c'est chacun un rôle bien déterminé ?
Oui. Alors oui, les joueurs ont un rôle bien déterminé. Il y a une personne autour de la table généralement qui s'appelle un meneur de jeu, qui est là lui pour un petit peu guider, qui est celui qui connaît généralement le jeu, qui propose le jeu. Il est là pour guider, il est là pour arbitrer aussi, expliquer les règles, aider les joueurs à rentrer dans la peau de leur personnage.
C'est presque du cinéma là.
On pourrait des fois y penser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des acteurs, on est loin du théâtre d'impro parce que on demande pas forcément aux joueurs de se mettre vraiment à la place de leur personnage, mais d'interpréter ce que ferait leur personnage. Moi, je dis souvent aux joueurs que j'ai à ma table, si vous vous sentez pas à l'aise à parler à la première personne du singulier, vous pouvez tout à fait parler à la troisième personne. C'est-à-dire mon personnage va escalader ou mon personnage va aller discuter avec telle personne, où mon personnage va sortir son couteau et va essayer de fabriquer un arc avec ça. Enfin voilà, on peut aussi jouer comme ça sans forcément dire je vais escalader l'arbre et me balancer de liane en liane pour poursuivre la camionnette qui s'échappe, quoi.
D'accord. Donc plusieurs tableaux, c'est des tableaux qui sont inspirés de BD ou quoi?
Alors, il y a des jeux qui existent, qui sont issus de la culture, de tout média, si vous voulez. Les livres ont beaucoup inspiré le jeu de rôle. Howard Philip Lovecraft, qui est une source d'inspiration énorme pour les rôlistes. Ça peut être aussi Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Beaucoup de jeux de rôle se basent sur ces histoires-là. Et après, le cinéma, bien évidemment, a mené les Star Wars, etc., à mener aussi de nouvelles réflexions autour du jeu de rôle. Donc voilà, toutes les thématiques sont vraiment libres. On s'apprête à créer un jeu de rôle autour du cyberharcèlement aussi pour sensibiliser les jeunes au harcèlement et notamment au cyberharcèlement. Voilà, on peut être sur du jeu de rôle très poétique et très contemplatif, comme sur du jeu de rôle un peu plus classique, on va dire, avec du donjon et dragon, où le but est simplement de passer un bon moment et de jouer des barbares qui se tapent dessus. Enfin voilà, c'est tout le monde, je pense, peut trouver son content dans nos soirées, avec la diversité des tables qu'on peut proposer.
Et là, en ce moment, je vois qu'il y a des jeunes filles qui sont assises là derrière et elle va démarrer un jeu. Là
tout à fait, on s'apprête à démarrer un jeu. Alors là, on est venu sur le festival de la BD dans le Pré tout simplement pour proposer des jeux flash, des jeux qui se jouent en 5-10 minutes. Les parties de jeux de rôle sont généralement un peu plus longues, mais là c'est simplement pour des petites mises en bouche en fait. C'est permettre aux gens de goûter et d'avoir envie après de venir aux soirées et de découvrir un petit peu l'association dans les détails. Mais voilà, là une partie commence juste. Et ils vont jouer à un jeu de la création d'un de nos maîtres de jeu. Et c'est un jeu de médiéval fantastique, avec des dragons, des fées, un monde un petit peu fantastique. Alors, comme ça.
On a un texte sous les yeux ou quoi? Comment ça marche?
Non. Alors c'est comme c'est des jeux flash très rapides, il n'y a pas de texte forcément sous les yeux, tout est dans la tête du maître de jeu. Et les joueurs ont une fiche de personnage. Là en l'occurrence, elles sont extrêmement simples parce que justement, je l'ai dit, c'est des jeux qui se jouent très rapidement, mais on peut avoir des fiches personnages un peu plus complexes. Je pourrais vous en montrer après, bon c'est compliqué avec le micro de montrer, mais avec des attributs, des caractéristiques voilà, qui permettent un petit peu aux gens qui aiment ça de rechercher un petit peu de complexité, à faire des calculs, à optimiser un petit peu leur personnage. Vraiment, tout le monde peut se plaire là-dedans. Et encore une fois, il ne faut pas forcément avoir fait maths spé pour s'éclater dans le jeu de rôle. C'est vraiment à la portée de n'importe qui. Et les maîtres de jeu sont là aussi pour aider. Les maîtres de jeu ou les meneurs de jeu sont là pour aider les joueurs à comprendre et à rentrer facilement dans leur rôle.
Comment vous avez connu ce type de jeu ?
Alors moi, je l'ai découvert très, très tardivement, contrairement à certains de l'association qui font ça depuis les années 80. Moi, les années 80, j'étais pas né, tout simplement. Moi, j'ai découvert ça assez tardivement, en été 2019, où j'ai tout simplement un copain qui m'a dit ben voilà, le jeu de rôle, voilà ce que c'est. Est-ce que, plutôt que de nous animer des soirées quiz, etc., comme j'avais l'habitude de faire, est-ce que tu nous animerais pas un petit jeu de rôle ? Et c'est là-dessus que j'ai décidé de créer un jeu de rôle et très rapidement, mais de cette soirée-là, j'en ai fait ma passion et j'ai même monté quelques mois après une association de jeux de rôle à Marmande. Donc je fais partie des créateurs de l'association.
Qui s'appelle ?
L'association s'appelle Des Aventures, D et S, Aventures au pluriel. Et on a une page Facebook, on est très actifs. N'hésitez pas à nous rejoindre et à venir voir un petit peu ce qu'on fait. Franchement, vous ne serez pas déçus.
Alors comment cette page Facebook s'appelle comment ?
La page Facebook s'appelle le même nom, elle s'appelle des aventures. Donc il suffit de taper des aventures comme les dés à jouer, à lancer, et aventures au pluriel, et vous trouverez du coup la page Facebook.
Et là, on va découvrir quelque chose d'extraordinaire.
Et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire, bien évidemment.
Merci.
Avec grand plaisir.
Vous êtes à la recherche d'un artefact hyper rare qui s'appelle le cœur de la forêt, un artefact druidique que de nombreux groupes d'aventuriers s'efforcent à trouver et à ramener au roi, mais personne n'y est arrivé. Et vous, après quelques journées de marche, même beaucoup de journées de marche de semaine, vous arrivez devant un temple, et ce temple ressemble aux écrits druidiques que vous avez pu consulter ou qu'on vous a parlé. Et ça serait l'endroit où se trouve ce fameux cristal, le cœur de la forêt. Et vous arrivez donc devant cette porte en bois. Et la question fatidique, qu'est-ce que vous faites ?
Et la réflexion se fait autour de la table. Il y a des dés là.
Il y a un piège déjà.
Le temple, c'est comme un temple
où la nature a repris ses droits.
Oui, d'accord.
Ouais. Okay.
Et.
Au Cambodge, c'est
bon. Suicide Squad, quand ils vont trouver la.
J'ai pas la ref. Okay. Donc, en fait, chacun son truc. Hein. Moi j'ai Facebook et j'ai pas la ref. Okay.
Ça fait des semaines qu'on marche à la recherche de quelque chose. On arrive devant un temple.
Où se trouve cette.
Moi, je cherche les pièges.
Une entrée ancienne qui a été cachée par.
Moi, vu que je suis mage, je sais pas, j'essaie de détecter un peu en mode s'il n'y a pas des pièges magiques ou je sais pas.
Vous cherchez autour, il n'y a pas de piège ni rien.
Il n'y a pas d'ouverture.
La porte.
Ouais, c'est ça, il n'y a que ça. On l'a défoncé.
Du coup, vas-y, je suis en train de promener, j'ouvre la porte pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière.
Mais est-ce qu'elle est ouverte?
Pousse la porte, elle est ouverte.
Ok.
C'est facile.
La porte, elle est ouverte, je passe en première, comme ça, si jamais il y a un problème.
Mais sinon, le mage peut allumer la lumière.
Oui, si vous voulez, allumer la lumière. Hop.
Ok, et donc.
Sachant qu'en plus, c'est pas ça le sens, c'est Lumos.
Ah oui, mince.
C'est Lumos.
Non,
on dira rien. Chut. Vous arrivez donc dans une grande salle où il n'y a pas forcément grand chose. Il y a des morceaux de bois par terre, comme des anciens meubles cassés, même. Pourri au fait, au final, la nature a tellement repris ses droits que c'est en ruine en fait. Le toit est cassé, il y a des rayons du soleil qui passent à travers. Il y a seulement un escalier qui descend en fait,
d'accord.
Dans la pénombre.
Moi je tape toutes les surfaces du mur pour chercher s'il n'y a pas des trucs.
Ça fait du bruit quand tu tapes.
C'est tout ce que ça fait.
Ça fait rien de spécial.
Moi je prends un morceau de bois. Je mets le feu au bout et je descends les escaliers sombres là. Ouais, avec vous, du coup.
Moi je cherche tout ce qu'il faut pour une arme, un truc comme ça, pour un indice.
T'as déjà une arme.
Oui, mais un indice.
Il doit y avoir d'équipements d'anciens aventuriers, d'accord, qui sont venus, qui sont morts.
Vous cherchez à l'étage et moi je descends
dans les vieux meubles, vous trouvez des. Des livres anciennement druidiques, vous comprenez pas, vous comprenez rien.
Je les donne à Elf parce qu'elle va peut-être pouvoir les traduire.
Mais même elle, elle pourra pas.
C'est-à-dire
que même les druides actuels ne pourront pas lire ce qu'il y a écrit, d'accord, dessus, c'est vraiment une langue morte, c'est comme le latin ou comme le grec.
Je les garde quand même parce que vas-y, c'est des reliques.
C'est intéressant. Voilà.
Et pendant ce temps-là, toi tu descends les escaliers.
Oui.
Et en fait, tu descends les escaliers comme ça, et en fait tu te retrouves nez à nez avec deux squelettes devant toi qui vont vers toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu lances un dé.
Les deux,
ouais. Ok, c'est un jet d'instinct, donc ils sont au-dessus de deux, c'est bon, c'est réussi. Tu lances sur les deux ?
Oui.
Et t'invoques ta magie, tu lances ta boule de feu, deux boules de feu sur les deux, et les deux tombent en cendres par terre. Et tu te retrouves dans ce couloir, il n'y a plus rien. Et qui continue vers tu sais pas où, parce que tu vois pas grand chose. C'est dans la pénombre.
Et vous,
en haut, vous entendez.
Et voilà, c'était un extrait de jeu de rôle.
Je vis dans une maison sans balcon, sans toiture, où y'a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. Y'a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant quelques mots sur le mur du couloir qui descend au parking des voitures. Quelques mots pour les grands, même pas des injures, et si quelqu'un les entend, répondez-moi. Répondez-moi, mon cœur a peur d'être emmuré entre vos tours de glace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs d'étoiles, de colliers, de jonquilles, pour accrocher aux épaules des filles. Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes, et le soir votre forêt d'antenne est branchée sur la solitude, et que brille la lune pleine, que souffle le vent du sud, vous n'entendez pas. Et moi je vois passer vos chiens superbes aux yeux de glace, portés sur des coussins que les maîtres embrassent pour s'effleurer la main. Il faut des mots de passe pour s'effleurer la main. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur de s'enliser dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs d'étoiles et de pluie de jonquilles, pour s'abriter aux épaules des filles. La dernière des fées cherche sa baguette magique. Mon ami le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. Les saisons se sont arrêtées au pied des arbres synthétiques. Il n'y a plus que moi. Et moi, je vis dans ma maison, sans balcon, sans toiture, y'a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. Y'a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison.
Alban Suarez, un parcours dans l'infographie, dans tout ce qui est du numérique.
Alors les parcours dans tous ces métiers-là, en fait, on est sur des parcours qui sont après bac, même si parfois il nous arrive d'avoir des jeunes qu'on raccroche suite à une forme de déscolarisation. Parfois il y a des jeunes qui se déscolarisent, et parfois il peut arriver qu'on prenne des jeunes qui n'ont pas le bac. Mais globalement, le parcours, c'est d'arriver après le niveau bac et de venir avec un projet construit lié à ses métiers, à ses envies. Et donc on propose plusieurs filières que sont l'infographie, la communication visuelle. On a une filière autour des métiers de l'image, télévision et audiovisuel, cinéma. On a des formations sur la 3D, sur le jeu vidéo, et on a des formations aussi, on a une prépa, et on a aussi une formation liée à l'illustration et à la BD. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là aujourd'hui à la BD dans le Pré, pour montrer un petit peu ce que font nos élèves. On a un élève qui est venu avec nous pour montrer son travail sur la bande dessinée et le numérique.
D'autant plus qu'Alban fait partie des cofondateurs de ce festival de la BD.
Oui, en effet, ce festival en fait, est né à l'époque de la rencontre avec Antoine Le Chevalier de la librairie Les Bellules. Et en fait, j'avais des idées folles, notamment voilà, de créer un festival de BD. Et en fait, lui, il y a cru à ses idées folles. On a co-construit ce festival ensemble. Et je suis très fier aujourd'hui de revenir voir ce petit bébé à l'époque dont je m'occupais, qui aujourd'hui marche tout seul avec une équipe formidable. Et donc, Kid Culture, l'association qui depuis l'origine porte le festival, continue à œuvrer. Et moi, je suis ravi de pouvoir donner un coup de main aujourd'hui après une implication qui était bien plus grande dans les trois premières années du festival.
On est toujours sur Vegas. Vegas, donc il y a tout un parcours de formation. D'abord une préparation, mise à niveau. Donc à Vegas, il y a plein de choses qui se font. Alors on a parlé que la préparation, c'est surtout à l'école avec très peu de stages. Par contre, toutes les formations... infographie, illustrateur, audiovisuel, infographie 3D, jeux vidéo. Là, la formation, c'est à peu près moitié école et moitié entreprise.
Oui, tout à fait. Voilà. On a privilégié aussi qu'en parallèle de l'apprentissage avec les formateurs de l'école, qui sont tous des professionnels qui se permettent d'enseigner ce qu'ils pratiquent dans leur vie de tous les jours, on trouvait que l'incursion professionnelle à l'école, c'était bien, mais qu'il fallait aussi qu'ils aillent sur les lieux d'entreprise. Et en fait, les premiers temps, ils n'ont pas de stage parce qu'il faut qu'on les forme bien. Mais après quelques mois de formation où ils sont à temps plein en formation, au bout de quelques mois, en fait, ils basculent sur des périodes de stage, ils reviennent à l'école. Et ce n'est pas une alternance par contre régulière comme des fois dans certaines écoles, c'est une semaine ou deux semaines. Et là, en fait, on est vraiment sur des période où il y a de la formation, après on va avoir un stage d'un mois, on peut retourner à l'école pendant un mois et demi après et repartir 15 jours en stage, mais sur la globalité il y a une forme d'alternance et sur toute l'année on est sur du ratio à peu près moitié-moitié entre le stage et la partie école.
Alors la durée de formation ça va de 1 an à 3 ans, c'est ça ?
Oui, exactement. En fait, on a des gens qui viennent en formation, qui font de la reconversion d'activité. On a des seniors qui, des fois, ont même plus de 50 ans et viennent en formation chez nous. Merci beaucoup. Ils viennent en formation chez nous, en fait, afin de faire des oui. Donc, on a des gens qui viennent chez nous, en fait, pour faire de la reconversion d'activité professionnelle. Et donc, voilà, on a différents profils. Mais en général, les étudiants qui rentrent chez nous par une prépa, ils vont rester en moyenne chez nous 3 ans, puisqu'il y a la prépa qui est une forme d'année zéro. Et après, il y a le niveau 1 et le niveau 2. Et on a quelques sections aussi en niveau 3. Mais globalement, il faut compter 1 à 3 ans pour faire la formation.
Alors, Vegas, vous êtes éditeur et vous avez édité un bouquin de Paul Meunier, Lieu de vie, suivi de défense de nos gouvernants, essai sur le coronavirus.
Oui, alors en fait, Vegas, vu qu'on est dans la production et dans la formation en fait, liée à l'image, à l'écriture, on a eu envie aussi de faire de l'édition pour des fois faire des livres en rapport avec nos savoirs et nos pédagogies. Et nous avons un livre qui va sortir bientôt. Et Paul Meunier en fait, est directeur de collection chez nous. Et lors du premier confinement et du second confinement, Paul Meunier a eu l'occasion de laisser libre cours à sa pensée, à ses réflexions de philosophe, lui-même qui est professeur de philosophie au lycée de Val-de-Garonne, qui avait écrit d'ailleurs en 2013 de mémoire un livre sur Isabelle Badinter. Et là, il revient à l'écriture après avoir donné naissance à 4 filles, ce qu'il a éloigné avec l'enseignement de l'écriture. Il nous revient à l'écriture pour un livre donc, publié et édité chez nous par Vegas Éditions, et dont on est très fiers, puisqu'on remercie d'ailleurs notre sénateur Alexandre Fresky qui a eu l'occasion de faire passer des ouvrages même au gouvernement. Et au gouvernement, et en fait, on a eu des retours du président Macron, de Véran et de Castex. Et bon, on est très fiers que voilà, notre livre, notre petite édition Lot-et-Garonnaise, ait pu aller jusqu'à l'Élysée. Et c'est un essai philosophique sur la notion de confinement. Donc Paul Meunier, au gré de ses pérégrinations philosophiques, nous parle voilà, de cette notion de confinement et de certaines choses liées à tout ce qui est le coronavirus. Voilà.
Alors, on a eu l'occasion avant-hier, lors du démarrage du festival, de se réunir quai 31.
Oui, c'est vrai qu'alors du coup, vous pouvez me voir sur beaucoup de choses, hein, sur l'école, l'édition, tout ça. Et en effet, en fait, le quai 31 est un lieu que j'affectionne particulièrement puisque je suis l'un des coprésidents d'Audace. Et Audace qui est la structure qui a créé les divers tiers-lieux que sont le Cocon à Meillan, mais aussi le quai 31 à Marmande. Et donc voilà, je suis le président de ce lieu et j'ai eu grand plaisir cette semaine d'avoir une semaine un peu folle au quai 31, puisqu'on a eu jeudi soir le vernissage d'un artiste émérite qui est Damien Tessandier. On a eu donc sa super exposition Black and White, noir et blanc. Et dès le lendemain, le vendredi soir, en effet, il y a eu la cérémonie d'ouverture du festival La BD dans le Pré qui a eu lieu le vendredi soir, donc au Quai 31, pour notre plus grand plaisir. Je sais qu'en plus, le lieu a été très apprécié et je suis très impliqué en fait sur Audace et le Quai 31 et le Cocon, puisqu'en fait, en travaillant sur l'école Vegas, je trouve que ces tiers lieux qui favorisent le travail et l'échange et les espaces de coworking, ça permet aussi à des jeunes qui sortiront de mon école et qui voudront montrer des entreprises de ne pas s'endetter sur des pas de porte, des lieux indépendants où ils vont travailler en toute solitude. Là, l'idée, c'est que des entreprises, des partenaires, des professionnels, des associations travaillent sur des mêmes espaces afin, dans un esprit d'échange et de partage, de former une communauté où il y a des échanges et avec ces notions d'espace de coworking et ces nouvelles tendances du nouveau travail, de la nouvelle façon de travailler qui est de travailler avec un esprit de bien-être afin d'être mieux dans son travail quoi, et de pouvoir produire les choses plus intelligemment.
Ce qui est extraordinaire avec toi, c'est que tu es toujours très très positif.
Alors très très positif, il ne faut pas me poser des questions qui m'amèneraient à l'être. Des fois je peux être négatif sur des choses, il y a bien sûr des choses comme tout à chacun qui m'inquiètent. Mais c'est un parti pris, j'ai décidé de voir le verre à moitié plein. Et j'ai décidé aussi que le monde on peut le changer mais à la portée de nos petites actions. Donc j'aime l'idée de pouvoir changer le monde à la portée de mes actions qui sont peut-être pas très loin, qui sont peut-être pas très éloignées, mais je pense qu'il peut y avoir des effets boules de neige, des effets papillons un peu, qu'une petite action peut en entraîner d'autres grandes. Donc j'essaye d'œuvrer le maximum pour le territoire, pour la jeunesse, pour des valeurs culturelles qui me tiennent à cœur.
Merci Album.
Un grand merci à vous.
Je suis avec Maria Surducam. Qui nous arrive, je crois, de Roumanie, c'est ça?
Oui, c'est ça, de Cluj-Napoca.
Oula! Alors, on est au cœur de Roumanie?
Au cœur de la Transylvanie, au nord de la Roumanie.
D'accord. Et alors, la BD, c'est venu comment?
Bon, il y a deux coupables. En premier, c'est un peu la faute de l'Institut français de Cluj, qui avait une très bonne médiathèque, et c'est un peu là que j'ai commencé à apprendre la langue française à l'aide des schtroumpfs. Et aussi, c'est la faute de ma sœur. On dessinait tous les deux, mais c'est elle qui avait commencé avec la bande dessinée. Et à un moment donné, elle organisait un fanzin et il y en avait deux pages blanches. Elle m'a dit, écoute, tu fais un truc tout petit, c'est la première à la dernière fois que je te demande. Je fais une petite bande dessinée et c'est comme ça que j'étais un peu virussée. Alors d'un coup, je ne peux pas arrêter de faire de la bande dessinée parce que c'est un moyen formidable pour raconter des histoires.
Alors donc là, vous avez toujours... vous êtes fertile à une histoire. Alors, ces histoires, c'est quoi?
Ce que je fais d'habitude, c'est plutôt jeunesse et adolescent. Ça se lit toujours au conte de fées et à la fantaisie, et à la façon dont on utilise les mondes fantastiques pour, disons, faire la paix avec les problèmes qui nous entourent. Donc c'est toujours une espèce de thérapie, mais à travers la fantaisie. Enfin, moi je vois les choses comme ça. Si mes lecteurs voient seulement des jolis contes, ça marche aussi.
Donc il y a toujours un message à faire passer.
Il y a toujours un message que j'espère passe, mais il n'y a jamais une morale. Donc d'un coup, s'il y a ce côté, disons, pas nécessairement éducatif, mais plutôt thérapeutique, je suis contente si ça se voit et si ça fonctionne. Mais s'il y a seulement le plaisir de la lecture, aussi je suis contente.
Et là, vous êtes complémentaire avec votre sœur à ce niveau-là?
On a travaillé ensemble pour un album de bande dessinée qui est, je trouve, le mieux dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant parce que c'est toujours bien de travailler avec quelqu'un d'autre. On vient de la même culture et du même univers, mais quand même, il y a des différences. On a travaillé ensemble pour le scénario des Vacances de Nord, sorti chez les Aventuriers de l'Étrange. C'est ma sœur qui avait fait les dessins et moi qui avais fait les couleurs. L'album a été publié en Roumanie et puis traduit en français par les Aventuriers de l'Étrange en juin 2020. Donc, on fait la promotion maintenant. On est un peu décalé.
La particularité, c'est que la narration... qui c'est qui l'a fait là?
Merci. On a travaillé ensemble. Mais c'est ma sœur qui avait fait le storyboard. Et puis moi, j'ai repassé et c'est moi qui avais fait la mise en page. Donc on a retravaillé toujours sur le texte. Parce que dans la bande dessinée, c'est très important d'avoir cet équilibre entre texte et image. Et c'est très important que le texte n'apporte pas des informations qu'on peut déjà trouver dans les images. Alors ça change jusqu'à la dernière minute.
C'est-à-dire que quand on peut lire l'histoire sans trop regarder le dessin, on survole finalement, on va lire de bulle en bulle, alors que finalement à l'intérieur, il y a plein de choses qui sont intéressantes à regarder.
Oui, en voyant que c'est de la bande dessinée, mon espoir serait que les gens vont quand même y prêter leur temps et bien regarder les images et les textes en même temps. Je sais que je ne peux pas vraiment contrôler la direction de la lecture, mais les images ont été conçues pour marcher en même temps que le temps. C'est pas le texte. C'est pas le texte qui aide les images, c'est pas les images qui aident le texte. Ça doit fonctionner d'une manière organique, mais ensemble. Donc, je conseille la lecture de l'image et du texte en même temps.
Et là, vous avez sorti d'autres BD ?
Oui, j'en ai trois titres chez Les Aventuriers de l'Étrange, un titre chez Macaca et un autre chez Le Moulagor. Donc, pour quelqu'un qui ne voulait pas faire de la bande dessinée et qui s'intéressait plutôt à l'illustration, j'en ai publié pas mal de bandes dessinées. C'est pour ça que je disais que c'est assez difficile de s'arrêter si on commence.
Eh oui, là, quand on commence à avoir le virus.
Ah ouais, oui. Oui, parce que c'est une manière très facile et qui coûte pas cher de faire un film, en effet. Et c'est des histoires que j'aimerais bien voir comme film, mais c'est très difficile et ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de gens. Les bandes dessinées, je peux les faire seule ou parfois avec l'aide de ma sœur, mais quand même, je n'ai pas besoin d'une équipe hyper grande. C'est juste moi et mon éditeur et mon public.
Très bien. Merci.
Merci à vous.
Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Vivre, n'attendons pas. sont pas.
Et alors après, on a beaucoup de choses, parce que je vois, on a des fricassés. Alors là, c'est des séries, les fricassés. Là.
Ah, les fricassés sont des aventures, ce sont des romans jeunesse, en fait. Romans d'aventure jeunesse, avec des poules comme héroïnes. Voilà, des poules qui s'échappent de leur poulailler et qui volent d'aventure en aventure jusqu'à bah, le troisième tome sortira bientôt, donc il faudra le lire pour le savoir, c'est tout.
En règle générale, vous étiez surtout les animaux.
Oui, c'est un peu le hasard. En fait, j'ai commencé avec de la BD africaine au tout début. Et ensuite, j'ai rencontré mon camarade Philippe qui vit en région parisienne. Il a fait de l'œuf, des poules, etc. Donc je me suis lancé là-dedans avec lui. Et puis, de fil en aiguille, j'ai aussi écrit des aventures de poules. Mais je peux aussi faire des aventures avec des humains. Peu importe, finalement, c'est un peu toujours la même chose quoi, qu'on y met dedans. Hein.
D'accord. Donc, il y a longtemps que vous êtes mis au dessin.
Je crois que le dessin, on commence tout petit. À l'école, on s'aperçoit qu'on dessine des arbres qui ressemblent déjà un peu à des arbres et pas à des poireaux ou à des trucs comme ça. Et on ne fait pas exprès, hein, c'est comme ça. Et puis après, on le développe ou pas. J'ai tardé quand même assez longtemps à le faire. Avant, j'étais enseignant dans une autre branche. Et puis, j'ai fini par venir au dessin quand même. Je crois qu'on revient toujours à ses premières amours. Et puis, je crois que, ouais, officiellement, depuis 2009, je fais de la bande dessinée et du dessin, ouais.
Alors ça veut dire que là, quand vous faites la bande dessinée, c'est un peu à la fois des albums, mais pas que finalement.
La bande dessinée, c'est un long travail. Ça commence par un scénario, donc créer des histoires. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle du découpage, c'est-à-dire du storyboard. Et puis ensuite, il faut le dessin. Et puis ensuite, il faut la couleur. Et puis ensuite, il faut mettre ça en forme, l'envoyer chez l'imprimeur ou trouver un éditeur, comme c'est le cas pour le Sud-Ouest. Et puis faire les salons, les festivals, rencontrer des gens. Donc c'est beaucoup de choses, faire des ateliers. C'est très varié et c'est ça qui est bien aussi. Oui. Parce que faire toujours la même chose, c'est quand même assez ennuyeux finalement. Hein. Donc la bande dessinée permet de faire plein de choses. Le dessin en général, de toute façon.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une personne à côté de vous qui a un œil aguerri pour vous dire « Attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir peut-être arranger la chose. »
Alors déjà, c'est ma correctrice très officielle. Elle a un œil d'aigle, donc ça, c'est très pratique. La plupart des dessinateurs, beaucoup de dessinateurs font des fautes d'orthographe parce qu'ils sont plus concentrés sur le dessin que sur le texte. C'est mon cas aussi, j'en fais peu mais j'en fais quand même, donc Corinne est derrière et hop, elle fait ça. Et ensuite elle gère aussi le stand, ce qui n'est pas rien quand je dédicace, quand je fais les dessins, elle fait tout le reste. Et en fait c'est beaucoup de boulot, voilà. C'est le boulot invisible des bénévoles et de tous ceux qui travaillent sur les festivals aussi. Hein.
C'est toute la complémentarité là.
Exactement, et tant qu'elle me supportera, je la garde.
D'accord, très bien, merci Ström.
Avec grand plaisir.
Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant sur l'autel, la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde,
deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solon gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans.
Cela n'est-il jamais lié le courant.
Devenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. La chair à canon, deux étrangers au fond du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Je suis avec Louis, qui est originaire d'où, juste ?
Originaire du Ghana, du côté de mon père, et de France, du coup, du côté de ma mère.
Et alors, maintenant, t'habites où, là ?
Là, actuellement, à Toulouse, mais j'ai passé la plus grande partie de mon enfance en Afrique de l'Ouest.
Et là, le dessin, comment est venue l'idée, là, le dessin ? Je pense que c'est de naissance, hein, toi, madame.
Alors, bon, le dessin, on sait toujours un petit peu qu'on sait dessiner, ou en tout cas, on le découvre très tôt. Après, l'idée de faire du manga m'est venue assez tardivement dans la vie. Je connaissais pas du tout le manga, je ne m'imaginais pas faire de la BD en grandissant. Je voulais être écrivain, je voulais surtout raconter des histoires. Et c'est en découvrant le manga autour de mes 19-20 ans que je me suis dit que le format m'intéressait énormément. Cette façon de raconter m'attirait beaucoup et que je me suis dit que j'allais combiner histoire et dessin en fait pour pouvoir raconter mes histoires de manière plus intéressante.
Donc finalement, l'idée écrivain, on passe à autre chose, mais il y a toujours quand même une narration.
Voilà, c'est la narration qui m'intéresse, c'est communiquer une histoire, c'est parler d'un thème, creuser une intrigue, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, le manga, c'est un support ou c'est un format très très populaire, en fait, donc ça va toucher un grand nombre de personnes. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pouvoir toucher un maximum de personnes avec mes histoires.
Alors les histoires, on va trouver ces Red Flower Stories, c'est quoi au juste ?
Red Flower Stories, c'est une série d'histoires courtes qui vont être inspirées donc, de mon enfance en Afrique de l'Ouest. On va y retrouver les contes, les mythes et les légendes du Ghana, de l'Afrique de l'Ouest. On va y retrouver des personnages originaires de là-bas aussi. On va y trouver des motifs, des décors, des thématiques qui me proviennent de là-bas aussi. Et où, dans chaque chapitre, on va découvrir un nouveau personnage qui va vivre une aventure bien particulière et où on va suivre une intrigue très différente.
Et à travers ça, on transmet finalement plein de choses de l'Afrique.
Ben, j'espère bien. Moi, j'ai grandi, j'étais très grand fan des fables de La Fontaine où avec chaque histoire, on avait une petite morale. Et comme en Afrique, on a une grosse tradition orale dans la transmission du savoir et de la sagesse, j'aimerais penser aussi que chacune de mes histoires véhicule un message ou en tout cas une réflexion ou pose une question qui va inviter le lecteur justement à réfléchir sur quelque chose dans la vie ou à prendre une petite sagesse, quoi.
Et alors là, on est à... Il y a énormément d'éditions, et on est à laquelle édition ?
Quelle édition, c'est-à-dire ? On est deux tomes de sortie. Donc c'est ma première édition, hein, c'est mes premiers travaux en auto-édition. Et à partir de 2023, en fait, le projet va continuer chez Glénat Édition qui s'est engagé à faire une histoire en 5 tomes avec moi, donc à découvrir à partir de 2023 dans toutes les librairies de France.
Très bien. Bon, il y a de quoi lire là.
Voilà, c'est ça. Ben, j'espère que ça va plaire aux lecteurs en tout cas et merci pour la confiance et pour la découverte, quoi.
Merci, au revoir.
Merci, ça fait plaisir.
Alors, je suis avec Serge Montfort. Serge Montfort, votre originaire d'où ?
Alors, moi, je suis originaire de Bretagne, donc je viens de la région de Brest, à peu près. Et voilà. Ah,
c'est la pointe, la Bretagne.
C'est le début du monde. Pour nous, c'est le début du monde. Pour certains, c'est le bout du monde, mais pour nous, c'est le début.
Le Finistère. Et alors, vous faites tout pile, c'est ça ?
Tout poil.
Tout poil. Tout poil,
oui. Donc ils sont les aventures d'un chien qui se promène dans la nature sauvage et qui va défendre ses copains animaux. Parce que bon, beaucoup d'espèces aujourd'hui disparaissent et tout poil a ce souci de les protéger et de les défendre et de sensibiliser le lecteur à la perte et à la disparition des espèces.
De la biodiversité, donc la BD Nature des moins de 7 ans et plus. Ou les aventures d'un chien tout poil, la découverte de la faune sauvage européenne d'aujourd'hui.
Voilà, et ce qui permet à la fin de chaque histoire de mettre un petit documentaire qui est une synthèse un peu de l'animal que tout poil a rencontré pendant son aventure. Tout ça au niveau Europe, puisque tout poil a ce souci de défendre la faune européenne, donc de chez nous, et que l'on connaît très mal.
Et alors là, on va trouver plusieurs choses. Je vois le pic de l'ours, les trois lynx, la mémoire de loup. Vous en avez toute une série là.
Voilà, donc il y a 4 thèmes qui ont pour l'instant été abordés avec tout poil. La loutre, l'ours, le lynx et le loup. Et puis le mois prochain paraît en librairie la 5e histoire sur le thème du blaireau. Poil va rencontrer une famille de blaireaux et puis voilà, on va exposer un petit peu comment vit le blaireau, qu'est-ce qui lui arrive, parce qu'il lui arrive des choses aussi, et comment est-ce qu'on peut résoudre certaines choses qui se passent. Donc voilà, c'est le prochain thème de l'histoire.
Bon, le but c'est de sensibiliser finalement à ces espèces en voie de disparition.
Voilà, d'abord c'est de faire une histoire qui se tienne, qui aime bien. Qui soit dynamique, plaisante à lire pour les enfants. Et en second plan, je dirais, de sensibiliser à cette protection nécessaire de la faune sauvage.
Comment vous est venue l'idée de dessiner et d'écrire ?
Alors ça, c'était un goût profond pour la bande dessinée, d'une part, parce qu'il faut quand même aimer la bande dessinée pour en faire, je pense. Un goût pour le dessin, et puis je me suis posé la question de savoir, tiens, qu'est-ce qui plaisait aux enfants quand moi j'étais enfant ? Qu'est-ce qui plaisait au moment où je le faisais ? Qu'est-ce qui plairait certainement 20 ans après ? Et j'en ai déduit que le genre animalier est quelque chose que les enfants ont toujours aimé, et aiment toujours, et comment le faire, sous quelle forme ? On n'avait jamais abordé... animaux sauvages, on n'avait jamais abordé la nature, l'environnement. Je me suis dit, bon, ça c'est un bon thème. Ça c'était en 92, le premier. C'était un bon thème. Mais c'est quelque chose qui reste très difficile à promouvoir aujourd'hui quand même. Donc impossibilité, moi j'ai eu l'impossibilité de trouver un éditeur pour ça. Là, tout à l'heure, il y avait une tribune sur l'auto-édition, donc c'est une forme d'auto-édition, crayon vert qui édite tout poil, c'est une forme d'auto-édition.
Très bien, merci Serge Montfort.
Merci à vous de faire un peu de la promotion des auteurs de ce salon.
Et voici Côté Jardin avec Patrick. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anémone du Japon. On le sait aujourd'hui, l'anémone du Japon est originaire de Chine. Elle fut importée au Japon pour sa beauté et le reste pour cette même raison, l'une de nos vivaces d'automne préférées. En effet, c'est le naturaliste suédois Carl Tumber, parti sur un bateau de la compagnie hollandaise des Indes orientales en 1771, qui découvre l'anémone du Japon en 1776 aux environs d'Edo, l'actuel Tokyo. Il n'en rapporte cependant qu'une plante herborisée qui sera consignée dans sa Flora Japonica en 1784, qualifiée de Japonica à l'instar de toutes les nouvelles autres plantes. Le naturaliste bavarois Siebel, en voyage au Japon en 1823-1829, la découvre, poussant en abondance dans le nord de Kyoto, et complète les descriptions. Mais c'est le botaniste écossais Robert Fortune qui rapporte de Chine les premiers spécimens vivants. La Société d'horticulture de Londres lui a donné pour mission de partir en Chine afin de ramener graines et plants de théier et autres nouvelles plantes. Fortune embarque donc en 1843 à destination de Hong Kong, juste après le traité de Nankin en 1842 qui mit fin à la première guerre de l'opium. Les relations entre la Chine et les Occidentaux ne sont pas au beau fixe. Et si la Chine se voit contraindre de reprendre les échanges économiques via cinq comptoirs que l'on lui a imposé d'ouvrir, elle interdit fermement aux voyageurs occidentaux de pénétrer dans les terres. Pourtant, c'est dans le nord de la Chine que Fortune compte se rendre, là où la campagne n'a pas encore été trop fouillée par les chercheurs de son genre. Il arrive donc à Shanghai, mais la vallée de Yangtze-Kiang lui paraît bien plate et trop cultivée. Il doute d'y trouver beaucoup de plantes sauvages, mais ne néglige aucune piste. Aussi, c'est parmi les tombes d'un cimetière à la périphérie de Shanghai qui découvre en novembre 1843 en pleine floraison celle que l'on nomme encore à cette époque anémone japonica. C'est qu'on ignore alors que l'anémone du Japon est chinoise. C'est la raison pour laquelle son nom latin est désormais anémone upensis. Quant à ces rejetons, les descendants de croisement avec l'anémone vitifolia, ce sont des hybrides. Ils sont nombreux, il faut dire que les pépiniéristes français du 19e siècle, tant Lemoine, Villemorin que Jaubert, s'en sont donnés à cœur joie. Subsistent quelques-unes de leur obtention, dont Couronne virginale 1894, Baudet parfaite 1896, Honorine Jaubert 1858, la plus connue de toutes. Donc l'anémone du Japon que l'on trouve dans le commerce est très souvent un hybride obtenu à partir de l'espèce Anemonis humevensis, originaire de Chine. Elle appartient à la famille des renonculacées. Cette plante vivace forme une touffe aux feuilles décoratives de taille importante. Celles-ci sont composées de trois folioles découpées et dentées, porté par une longue pétiole fixée à une tige robuste qui peut dépasser un mètre. Sa floraison débute en fin d'été pour se poursuivre jusqu'au gelé. Elle apporte des touches gracieuses de coloris délicats qui vont du blanc au rose pourpré, suivant les variétés. Ce sont de pétales varient selon les fleurs, peut-être simples, doubles ou semi-doubles. Cette plante est précieuse pour qui veut des fleurs sans souci. Elle est bien rustique et robuste. Il faudra l'installer dans un sol bien drainé et riche, qui ne demande pas d'humidité en situation ensoleillée ou en mi-ombre. Au bout d'un certain temps d'adaptation, elle se mettra à fleurir abondamment et produira de nouveaux pieds aux environs parfois encombrants. Cette tendance à l'envahissement peut être exploitée pour multiplier la plante et développer des pieds, sinon pensez aux voisins. Cette fleur donc qui fleurit de mi-août à mi-octobre résiste tant au froid comme à la sécheresse en terre argileuse ou bien calcaire. Oui, elle peut devenir un brin envahissant dès lors que le sol est assez frais et l'exposition légèrement ombragée, ce qu'elle aime. Mais elle est si belle, et puis il suffit de la diviser et hop, ça fait des cadeaux. Voilà, c'était l'anémone du Japon. C'était Côté Jardin avec Patrick. Voilà, l'émission Parlons Terroir s'achève sur l'épisode 2 du Festival de la BD dans le Pré à Fourques-sur-Garonne. Nous avons entendu Patricia Liffon, qui est auteure de BD, également Alice Picard, dessinatrice, le prix de l'association des aventures de Marmande, jeu de rôle, Alban Suarez, responsable de Vegas, en formation des métiers liés à l'image, Maria Surducan de Roumanie, qui réalise des bandes dessinées avec sa sœur, Strong de Lognac, sur des romans d'aventure jeunesse d'histoire d'animaux, Louis de Toulouse, qui réalise des mangas, Serge Montfort de Bretagne, réalise des BD jeunesse sur l'histoire d'animaux, et Côté Jardin, c'était l'histoire de l'anémone du Japon. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.